Dans la grande table des idées aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la philosophe indianiste et sanskritiste Colette Poggi, qui publie La Bhagavad Gita ou L'Art d'Agir aux éditions des Équateurs, roman graphique illustré par Émilie Poggi, un ouvrage qui nous ouvre l'accès à la Gita, le grand texte vieux de 24 siècles, fondateur de la pensée indienne et du yoga, visant à accorder pensée et acte au dharma, une conduite de vie qui encourage à la réalisation de notre vocation profonde, le svadharma, tout en prenant soin d'autrui. Colette Poggi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici avec nous pour nous guider sur le chemin de la Gita. Alors, pourquoi pas commencer peut-être par cette histoire racontée et illustrée dans le livre, cette histoire des deux grenouilles dans la jatte de lait, sorte de métaphore aussi du chemin qui est envisagé par la Gita.
Tout à fait, oui. Donc, en fait, les deux grenouilles, un jour, tombent dans une jatte de lait et... se pourlèchent les babines, si on peut dire, et soudain, elles veulent sortir. Elles veulent sortir. L'une d'elles commence à se débattre et s'aperçoit très vite qu'en fait, elle ne pourra pas, car les parois sont glissantes, et elle commence justement à avoir peur, baisse les bras, renonce, tandis que l'autre se dit « mais pourquoi pas, finalement, on ne risque rien à agir, on ne risque rien à essayer, à conjurer justement ce mauvais sort ». Et si bien que l'autre finalement se laisse couler, et celle qui était audacieuse, qui était héroïque, continue de se débattre, et en se débattant, le lait devient du beurre.
Voilà, elle baratte le lait à force de sauter.
Elle baratte le lait, si bien que finalement, elle peut sortir en sautant, et on espère que l'autre a fait de même.
Alors c'est une sorte de vaste métaphore de latitude.
Exactement.
Que propose aussi ce chemin-là, source d'inspiration pour de grands hommes, on parlait de Gandhi, mais aussi de Nelson Mandela et bien d'autres. Comment est-ce que vous définiriez ce texte? D'abord, peut-être donner quelques mots sur l'origine de ce mot.
Gita. Voilà. Alors, la Bhagavad Gita, donc, date à peu près de 24 siècles. En Inde, on n'est jamais certain, en fait, de cette chronologie. Bhagavad Gita signifie Gita, le chant. C'est ce qui a donné Gitan, d'ailleurs. C'est un mot très ancien. Et Bhagavad signifie le Seigneur, le bienheureux. Mais en réalité, c'est davantage celui qui se donne en partage. Bhaga, ça veut dire la part, la partie. Celui qui participe, en fait, de toute la réalité. Donc, c'est un dialogue qui a franchi justement les siècles et les millénaires, qui n'a été traduit en Occident qu'en 1787. 5 par Wilkins, un anglais, puis en latin par Schlegel, et puis par Humboldt, en fait, ensuite en allemand. Ce texte, en fait, est assez bref, ce qui fait que sa lecture est simple, finalement.
Ah, il faut dire qu'il fait partie
du Mahabharata. Il s'intègre dans une épopée immense, une épopée fleuve qui fait 18 livres et des centaines de milliers de stances. Cette épopée, en fait, raconte un conflit permanent entre deux familles de cousines, en fait, deux familles cousines, et est tout à fait emblématique, en fait, de l'humanité, où les êtres, les nations, les communautés n'ont cessé de s'affronter. Et il se trouve qu'au livre 6, qui s'appelle le Bhishma Parvan, où d'ailleurs, Bhishma, un grand souverain, va également mourir. Eh bien, ce dialogue prend place parce que, soudain, Arjuna, celui qui doit défendre le camp de ceux qui sont du côté de la justice, de l'ordre...
C'est le héros, Arjuna, voilà, le héros valeureux.
Arjuna, oui, un terme sanskrit d'ailleurs, puisque c'est du sanskrit, cette langue... la plus ancienne des langues indo-européennes. Arjuna signifie le brillant, donc il a pour lui la lumière, l'audace. C'est un archer, avec toute la symbolique de viser la cible, donc du discernement aussi. Et malheureusement, lorsqu'il s'avance à un moment donné au milieu du champ de bataille pour considérer ceux qui sont en face, alors qu'il les connaît très bien. Mais ce déplacement, ce pas de côté montre qu'à un certain moment dans notre vie, nous avons besoin de faire face d'une autre manière que par la tête, peut-être, par tout notre être, par le corps, par le cœur, à ce qui est face à nous.
Alors Arjuna va se mettre à douter voilà. face à cette bataille-là, il renonce à agir,
oui.
et finalement de là va naître tout un tas d'interrogations auxquelles va répondre Krishna.
Tout à fait. Alors ça, c'est
la divinité.
Tout à fait. C'est extraordinairement métaphorique, et cela, en fait, nous raconte quelque chose qui nous arrive. Je pense qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit que les textes sacrés, donc comme cette Gita qui s'inscrit dans une épopée, hein, elle est considérée comme texte sacré, nous parle de nous, parce que Arjuna, c'est nous. Nous pouvons douter, nous pouvons baisser les bras, renoncer. Alors que c'est le moment d'agir. Et si, justement, on s'installe dans un entre-deux, dans une sorte de vacuité, et qu'on accepte, justement, de s'effondrer, parfois, eh bien, une parole, donc, qui est ici incarnée par Krishna, qui est un avatar, c'est-à-dire une manifestation d'une divinité suprême, Krishna, donc, va générer, en fait, une parole vivifiante, qui va rendre Krishna conscient de ce qu'il a à accomplir. Et tout d'abord, c'est ça justement le propos du yoga, puisque c'est un texte fondamental du yoga, de la philosophie du yoga. La première chose que fait Krishna, c'est de dire à Arjuna qui il est vraiment. C'est-à-dire, il n'est pas cette apparence de guerrier, tout ça, ce sont des rôles. Hein, mais de la même manière qu'un acteur... à la sortie du théâtre, dépose ses vêtements, ses habits de scène. De même, Arjuna doit confronter, doit prendre conscience, doit faire retour sur lui-même pour prendre conscience justement de ce qu'il est vraiment.
Alors c'est une interrogation très large autour de l'être et de ce qu'on pourrait appeler le
fait.
Moi,
oui,
Colette Poggi. Dans ce livre-là, justement, vous essayez de rendre accessible un texte qui au départ n'est pas un texte sacré, mais qui est un texte millénaire, source d'inspiration, vous le disiez, de la pensée indienne, mais aussi du yoga. Il y a tout un tas d'illustrations et une manière de réécrire l'histoire un peu comme si elle était un conte qui a pour volonté de nous le faire comprendre, de
tout
nous rendre accessible une culture qui est quand même difficile à appréhender parce qu'il y a tout cet enchevêtrement de pensées et de personnages.
Absolument, c'est extrêmement complexe, mais cette complexité n'empêche pas une certaine simplicité parce que, en fait, c'est une narration comme dans les contes de fées, comme l'Iliade et l'Odyssée, etc. Donc là, ce qui est important, c'est si vous voulez, ce que j'ai eu à cœur de restituer, c'est vraiment l'essence plutôt que l'immensité de la narration. Et or, cette essence, elle est profondément humaine. Qui ne s'est jamais effondré? Qui n'a jamais trouvé auprès de lui une réponse, un écho, comme s'il venait de l'univers, hein? Et dans la période que nous vivons, qui est extrêmement troublée, pleine de confusion, eh bien, nous avons besoin de cela. Et je pense que il ne tient qu'à chacun de lire cela, de l'entendre justement comme un écho. Hein. Et je voudrais ajouter que cette période que nous vivons dans la lecture indienne, hindoue, en fait, ça s'appelle le Kali Yuga, c'est-à-dire la période de la confusion et du conflit. Kali, c'est le conflit. Et lorsqu'on cherche dans les Puranas, c'est-à-dire des textes anciens, l'origine, la cause profonde de ce chaos qui ne va qu'en grandissant, de façon inexorable de toute façon, comme une toupie, c'est l'un des très beaux dessins d'Emily Poggi, cette toupie qui tournant sur son axe, va inéluctablement s'effondrer. Eh bien, la cause, c'est justement le sentiment de l'individualité, du moi, qui s'oppose justement aux autres, qui se constitue en une sorte de cuirasse, hein, de cuirasse rigide. De là, l'autre est vu comme une menace.
Alors, il y a une très belle métaphore de ça dans le texte, c'est l'histoire des longues cuillères. Peut-être
Absolument.
Vous pouvez nous la raconter, Colette
Poggi.
Oui, tout à fait. Cette histoire des longues cuillères qui permettent de se nourrir mutuellement.
Exactement. Alors, c'est une histoire qui appartient à l'Inde, mais qui n'appartient pas qu'à cette communauté culturelle. Il s'agit de quelqu'un qui un jour va en enfer et qui découvre que les gens sont devant une table dont les plats magnifiques sont disposés, savoureux, etc. Et toutes ces personnes sont dotées de grandes cuillères. Et alors, elles sont absolument affamées parce qu'elles cherchent justement à se nourrir elles-mêmes avec ces cuillères.
Qui sont immenses, avec une tige immense.
Voilà,
hein, c'est représenté
impossible,
comme...
absolument. Puis, donc, cette figure, ce personnage décide d'aller au paradis, voir ce qui se passe, et il voit exactement la même chose, donc cette grande table, avec des mets savoureux, etc. Toujours de grandes cuillères, extrêmement plus longues que les bras. Hein. Mais là, les gens sont rayonnants, ils sourient, ils sont comblés, ils expriment une sorte de plénitude, parce que, au lieu de se nourrir eux-mêmes, eh bien, ils nourrissent celui qui est en face.
Au bout de la cuillère.
Au bout de la cuillère. Et donc, tout cela nous raconte que les vertus de l'altruisme. Et donc, cela nous met en contact aussi avec cette extraordinaire intuition si ancienne qui nous dit qu'on peut faire une action justement pour soi ou pour autrui. Et c'est lorsqu'on l'a fait pour autrui, justement, avec une intention ouverte, pour autrui ou pour la planète, ou pour la nature, hein, ou pour les soignants, par exemple, lorsqu'ils ont soigné au risque de leur santé, hein, tous les autres, il y a une sorte d'énergie vivifiante, une autre vibration qui fait que le corps, justement, ça c'est une des grandes thématiques de la Gita, le corps devient, ce sont dans un champ de transformation, un champ de métamorphose.
Alors, vous avez plusieurs choses développées dans ce que vous venez de dire. À la fois, ça me fait penser à cette phrase que vous reprenez, « ce que j'accomplis m'accomplit » de Vimalathakar, c'est-à-dire cette manière aussi de joindre l'action collective et l'action pour autrui à un accomplissement, à sa propre vocation, et ne pas opposer ces deux choses-là.
Tout à fait. Donc, c'est justement ce double thème du dharma. Le dharma, c'est-à-dire...
Le cosmos.
Le cosmos, ça veut dire tout se tient, en fait. Le dharma, D-H-A-R-M-A, c'est la loi de la bonne orchestration de l'univers, c'est-à-dire ce qui permet au cours des saisons hein, de prendre place, aux constellations de se tenir dans l'univers, aux êtres humains d'assimiler, d'éliminer, de voir, d'entendre, avec une cohérence, hein, comme si il y avait une sorte de symphonie des énergies, des capacités, voilà. Mais il y a en même temps toujours un principe aussi de désordre, hein, d'entropie là-dedans. Donc le dharma, c'est cela, c'est comme la grande mélodie. Rainer Maria Rilke, dans Notes sur la mélodie des choses, c'est un petit livret vraiment magnifique, fait allusion à cela. Sûrement, il connaissait la Gita. Et le Swadharma, justement, c'est la mélodie personnelle, individuelle, unique, par sa vocation, par sa tonalité. Chacun a une... est unique hein, dans ses attentes, dans ses potentialités. Et donc cette mélodie, cette ligne mélodique vient s'inscrire justement dans la mélodie de l'arrière-fond, dit Rilke.
Comme si les vibrations s'accordaient entre elles. Voilà. Je vous propose d'écouter un extrait d'une lecture de la Gita, celle du chant de bataille.
Se sentant défaillir, Arjuna prononça le discours que voici. Quand je vois mes propres parents, ô Krishna, rangés en ordre de bataille, mes membres se mettent à trembler. Ma bouche se dessèche. Un frisson parcourt mon corps et mes poils se hérissent. La fièvre me brûle. Je ne tiens plus sur mes jambes et mon esprit semble pris de vertige. De plus, je ne vois que des signes funestes. Quel bien puis-je retirer du massacre de mes propres parents? Je n'en aperçois aucun. Je n'aspire à rien, ô Krishna, ni à la victoire, ni à la royauté, ni même au bonheur. Maître, père, fils et aïeux, oncle, beau-père, petit-fils, gendre et proches parents, je ne désire leur mort pour rien au monde. Dussé-je en périr? Quelle satisfaction pourrions-nous retirer du massacre de nos ennemis? La souillure s'attacherait à nous parce que la guerre ferait de nous des meurtriers. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de tuer nos ennemis et surtout nos parents. Oh, quel mal infini irions-nous commettre poussés au meurtre des nôtres par l'aiguillon du pouvoir et des richesses. Oh, si je pouvais périr dans la bataille sans opposer de résistance sous les coups de mes ennemis. rien ne me serait plus doux. » Ainsi parla Arjuna sur le champ de bataille. Puis lâchant arc et flèche, il se laissa choir, terrassé de chagrin, à l'arrière de son char.
Colette Poggi, on entend que le trouble premier d'Arjuna, son doute vient presque de son corps, une sorte de rejet physique de ce qu'il est en train de faire en se battant.
Tout à fait. Et d'ailleurs, un premier mouvement naturel nous met en empathie avec ce que dit Arjuna. Personne n'a envie d'aller tuer son prochain, ses parents, ses maîtres, etc. Son corps, justement, montre les signes, le corps parle, il lâche son arc. Gandiva qui est vraiment illustre. Et donc ce retrait par rapport à la dynamique de l'action peut tout à fait s'expliquer. On pourrait prendre le parti d'Arjuna. Cependant, il y a une sorte de coup de théâtre.
Le parti d'Arjuna, c'est le renoncement ?
C'est le renoncement. Hein, au départ, on pourrait dire il a raison. Pourquoi aller tuer d'autres ? Hein, donc, je pense que tout le monde, dans un premier temps, souvent quand j'enseigne cela à l'université, c'est la réaction des étudiants. Mais ensuite, ce que montre Krishna, et que nous vivons aussi dans le quotidien, par exemple, c'est qu'il y a des moments, il y a des situations où nous n'avons pas le choix. Si nous voulons qu'il y ait une justice, si nous voulons défendre ceux qui sont maltraités, ceux qui sont harcelés, ceux qui sont dans des conditions extrêmement difficiles, nous devons agir. Par exemple, si un enfant se fait tabasser, battre, etc., si une femme se fait agresser, on ne va pas rester les bras croisés. Il y a une sorte de d'élan naturel et... Il y a un élément dans la pensée indienne qui parle justement de ce signe, de ce petit signe subtil qui nous montre qu'il faut agir, c'est ce qu'on appelle dharma tushti. Tushti veut dire la satisfaction, c'est-à-dire que même si c'est difficile, même si c'est une épreuve, s'il y a un obstacle, on ressent en soi, lorsqu'on a pris la bonne décision, vraiment dans le corps aussi, une sorte de satisfaction, d'être en accord avec son propre Svadharma, puisque nous n'avons pas tous le même.
Alors le Svadharma, il faut peut-être y revenir, c'est vrai qu'on est dans cette époque troublée, on peut y penser beaucoup, cette question de la vocation, qui est une question assez complexe, et aussi comment une pulsion créatrice, d'une certaine manière, peut s'exprimer, une individualité, mais à l'intérieur d'une vibration globale,
tout
mondiale, même au-delà.
Donc, pour nous, par exemple, dans notre société d'aujourd'hui, puisqu'on peut transposer et interpréter, partant
vous certains... en parlez d'ailleurs, vous, des enjeux écologiques, sociopolitiques, vous faites des passerelles entre les problématiques d'aujourd'hui
quand on passe,
et cette pensée millénaire.
Oui, quand on pense à Greta Thunberg, par exemple, cette jeune fille qui a vraiment cette vocation. On dirait qu'elle a en elle déjà une sorte de potentialité, ce que l'Inde peut expliquer avec la théorie des vestiges enfouis de l'inconscient, où nous engrammons depuis des vies et des vies antérieures, justement, des connaissances, des expériences qui nous permettent de réagir à tel ou tel événement. Il y a aussi, par exemple, ceux qui sont prédestinés pour la musique, pour la peinture, pour la poésie, pour la cuisine, pour le jardinage, voilà, pour soigner, la vocation, par exemple, des médecins. Donc là, ce que fait Krishna, c'est qu'il réveille en fait une braise qui était endormie. Il suscite de nouveau en lui cet élan, comme par exemple Nelson Mandela. Lorsqu'il luttait pour l'apartheid, il a eu donc le prix Nobel de la paix en 1993. Il avait en lui cette nécessité. S'il était passé à côté, sûrement il aurait été désespéré et n'aurait pas accompli sa vie. Accomplir, c'est s'accomplir. Donc il s'est trouvé en prison avec un co-détenu d'origine indienne qui connaissait la Gita par cœur.
Et qui l'a initié d'une certaine manière.
Et qui l'a initié, tout à fait. Donc ce qui est important aussi, je crois, vous faites bien d'y faire allusion, c'est cette idée de dialogue, c'est-à-dire d'entre deux, toujours, de paroles qui est un échange. Et pour cela, il faut un espace. C'est là, justement, où se sont mis Krishna et Arjuna, au milieu du champ de bataille. Et donc, quant à Nelson Mandela, il dit, par exemple, que pour lui, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, Parce qu'il a essayé maintes et maintes fois des combats qui se sont révélés perdus. Mais il a essayé encore. Et donc, la gloire, c'est de se relever à chaque chute. Et il dit, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à le vaincre. Et c'est là justement qu'il débouche sur quelque chose d'altruiste, d'ouvert. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, mais c'est vivre de façon, d'une façon qui respecte, qui renforce la liberté des autres. Voilà. Lui, son Swadharma, c'était vraiment cela. Et il y est arrivé.
Cette universalité du texte, on la retrouve, c'est ce qui a donné aussi l'écho qu'on connaît au yoga, à la fois en tant que pratique physique, mais pratique spirituelle au départ, puisqu'il n'y a pas de dissociation entre les deux, Colette Poggi.
Non, pas du tout. Non, non.
Et la pensée yoga, comment expliquer qu'elle résonne autant ces temps-ci? Comment est-ce qu'elle s'emparerait de cette crise-là, qui est une crise mondiale, une réaction mondiale comme ça, avec néanmoins des individualités qui réagissent de manière particulière?
Alors, l'idée, en fait, du yoga, qui est vraiment une tradition, un art d'être, une science de la vie, je pense, plurimillénaire, et tout est dit dans la racine verbale, c'est yuj. Yuj, yoga, que nous avons dans le mot jonction, ou joug, par exemple, c'est unir, mettre en relation. En fait, c'est ça aussi, interligérer l'intelligence des choses, l'intelligence du corps, l'intelligence des arbres. C'est-à-dire qu'on ne peut vivre isolé. Tout est histoire d'interconnexion, nos synapses. Les constellations, quand on voit l'univers avec tout est en corrélation. Cette interdépendance est vraiment fondamentale. Quant au je suis, quant, si vous voulez, à l'idée d'individualisme, exprimer sa vérité d'être, c'est-à-dire être en union, en jonction avec soi-même, c'est justement être joint à soi-même, c'est se rejoindre soi-même, c'est vraiment la première chose que l'on est à faire dans toutes les techniques de yoga, de qigong, de tai chi, des arts martiaux, etc. Mais ensuite, il ne faut pas confondre justement le soi et le moi, c'est-à-dire que le soi, ce serait cette dimension universelle, transpersonnelle peut-être. Le moi, c'est cette gang qui nous fait forger une sorte d'ego qui s'oppose, donc qui rejette. Mais entre les deux, il y a une dimension sur laquelle insiste beaucoup le yoga, qui est le « je suis ». Je suis, on connaît cette thématique aussi en Occident avec Maître Eckhart. Je suis celui qui suis, etc. Donc, c'est, je pense, en coïncidant, en se ramenant, comme au diapason, en se mettant au diapason avec cette dimension profonde.
À laquelle on échappe régulièrement. C'est d'ailleurs tout le fonctionnement de la méditation, c'est de revenir toujours, puisqu'on ne cesse de s'écarter.
Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tentation, on pourrait dire, de se disperser, de s'extérioriser. Et d'ailleurs, il y a une phrase upanishadique absolument magnifique qui dit « Le Créateur a percé les ouvertures vers l'extérieur ». Les ouvertures, c'est les yeux, les oreilles, mais aussi la pensée. C'est pourquoi les hommes s'échappent toujours à eux-mêmes. Il y a cette sorte de dispersion, d'extériorisation. Un jour, un certain sage, désireux d'immortalité, a retourné le regard vers l'intériorité. Voilà. Alors, désireux d'immortalité, ce n'est pas qu'il voulait vivre des milliards d'années. Ça veut dire qu'il cherchait l'instant qui était hors du temps. C'est-à-dire, non pas le temps qui court et que l'on trouve très long lorsqu'on s'ennuie beaucoup.
C'est le pas de côté d'Arjuna.
Voilà, absolument. C'est Antara, c'est-à-dire arriver dans un entre-deux et se sentir comme nous avons en nous-mêmes cet axe médian qui est extrêmement important dans le yoga, que tout est fondé là-dessus, mais comme d'autres pratiques d'ailleurs. Et cet axe, il a un nom magnifique en sanskrit, on l'appelle aussi Sushumna. Et Sushumna vient de la racine mna, mnésique. Et su veut dire bien, bon, heureux. Ça veut dire que c'est toujours de cet axe intérieur, intime, mais en même temps universel, qui est comme une antenne et qui fait de nous des sentinelles de l'univers. Donc, il est bon, extrêmement bon de s'en souvenir.
Alors, ce centrage permet d'une certaine manière de résister face à la tempête et au chaos.
Absolument, comme nous traversons aujourd'hui. Je pense que...
Alors, c'est pas une posture de retrait, c'est une posture quand même d'introspection.
Alors, c'est une posture qui correspond un peu à cette image du cercle, qui serait l'extérieur, et du centre, sans lequel le cercle n'existerait pas. Pour dessiner un cercle, on met le compas dans un point qui est ce centre. Alors, on va dire que c'est une dimension autour du centre, comme un noyau vivant, toujours en métamorphose, justement, mais qui est en même temps peut-être immuable. Ça, il faut être vraiment de grands méditants pour le savoir. Et donc, il est possible d'être tout à l'extérieur, quand on est vraiment extériorisé, donc dispersé, ou très intériorisé, comme parfois dans certaines méditations, où l'on ignore tout du monde. Mais il existe une troisième voie, justement, qui est celle que prône la Bhagavad Gita, mais aussi d'autres textes comme le shivaïsme du Cachemire et tantras médiévaux qui sont d'une extrême importance parce qu'ils parlent de la conscience et de ses énergies. Et à ce moment-là, on perçoit l'univers comme une expression de la conscience universelle et de ce fait, on peut être à la fois dans le centre et dans le cercle, c'est-à-dire dans le rayon, dans le rayonnement.
Donc, à la fois avec soi et ouvert à cette extériorité. Ouais. Je vous propose, pour en revenir à cette histoire de méditation, d'écouter David Lynch. C'était dans la Grande Table le 10 juin dernier.
Je pratique la méditation transcendantale telle qu'enseignée par le Maharishi Mahesh Yogi depuis 46 ans. Et je pense qu'il est très important pour que les gens sachent que chacun d'entre nous, êtres humains, possède un trésor intérieur auquel on peut avoir accès. Maintenant, avec la recherche sur le cerveau, des recherches ont été faites sur tout type de méditation à travers le monde. Et aucune, sauf la méditation transcendantale, donne cette expérience de la transcendance pour pouvoir bénéficier du trésor. Tout comme de par le monde, il y a beaucoup de clés. Il y a une clé pour telle porte, une clé pour telle autre. Mais il n'y a qu'une seule clé qui ouvre le coffre-fort de la banque et vous permet d'atteindre l'or. Vous avez besoin de la clé qui ouvre ce coffre. Et donc la méditation transcendantale va permettre ou peut permettre à chaque être humain de plonger à l'intérieur de soi-même, d'arriver, de plonger dans ce trésor. Et ce trésor, c'est de l'intelligence sans limite, de la créativité, du bonheur, de l'amour, de l'énergie, du pouvoir et de la paix.
Alors, du pouvoir et de la paix, cette transcendance dont on parle, Colette Poggi, d'abord un commentaire peut-être sur ce que vient de dire David Lynch et sur le fait que toutes les recherches actuelles scientifiques sur le cerveau vont dans le sens de cette transcendance connue et racontée par un texte qui a 24 siècles.
Tout à fait, tout à fait. J'apprécie beaucoup là ce que vient de dire David Lynch. Sauf que je pense que ce n'est pas le seul texte, enfin la seule tradition qui parle bien de la méditation. La méditation, en fait, la plus profonde se dit en sanskrit « samadhi ». C'est un terme que, par exemple, Eliade a traduit par « en stase » au lieu de le traduire par « extase ». Mais lorsqu'on connaît un petit peu, justement, les termes du sanskrit, c'est extrêmement vivant parce qu'on a la racine « dhi » qui veut dire se poser. Ce dont nous avons besoin, de manière universelle, c'est de nous poser, parce que justement nous sommes, par notre configuration de sensorielle, de la pensée, etc., nous sommes portés à une agitation, à une extériorisation. Donc, dhi, c'est se poser. Sam, c'est complètement, parfaitement.
Mais la pause ne veut pas dire l'inaction.
Non,
justement. Il va y avoir le temps de l'action.
Se poser, ce n'est pas s'asseoir. C'est intérieurement, c'est la conscience peut être extrêmement posée, même dans un art martial par exemple. Et A veut dire dans le centre. On revient toujours à cette globalité et à ce sentiment d'être juste et d'être centré. Et effectivement, ce dont parle ce grand méditant, c'est de la créativité, de l'action toujours nouvelle. Il faut se renouveler sans cesse et sans cesse, avoir une sorte de goût de l'improvisation aussi de la vie. Ça, c'est l'acte comme un pianiste peut improviser ou un poète aussi dans certaines traditions, à cette parole. Et donc, cette luminosité qui est évoquée avec la méditation correspond exactement à ce que dit Krishna lorsqu'il dit, par exemple, deux attitudes distinguent les êtres en recherche, c'est la quête de la connaissance et la pratique ascétique. Mais la pratique ascétique ne signifie pas se libérer de l'action. Ça signifie être libre par rapport aux fruits de l'action. C'est-à-dire, si j'offre par exemple quelque chose à quelqu'un en me disant « il m'en sera éternellement reconnaissant », je suis lié, voyez ? Alors que l'action libératrice, c'est celle de donner parce que c'est l'élan de mon cœur qui va donner et d'être aussi exactement détaché des fruits de l'action.
Et on voit à quel point justement la lumière provient aussi en ces périodes de chaos, de ces grandes paroles. Il y a justement cette phrase de Gandhi que vous recitez, que la Gita vous soit une mine de diamants comme elle l'a été pour moi, qu'elle soit toujours votre guide et amie sur le chemin de la vie.
Oui, tout à fait. Gandhi, avec ses épreuves, ses multiples années d'emprisonnement, a sans cesse cru défaillir. Il a été un Arjuna. Mais il disait vraiment que chaque fois qu'il avait pris la Gita, la Bhagavad Gita, et qu'il avait ouverte, quelle que soit la page, eh bien cela lui avait donné le goût du nouveau de l'action.
Merci, merci infiniment Colette Poggi d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle le nom de votre ouvrage, La Bhagavad Gita ou L'Art d'Agir aux éditions des Équateurs, illustré par Émilie Poggi. Demain, vous retrouverez la critique de Lucille Comeau et dès lundi, Olivia Gesbert. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Jean-Christophe Brianchon, Bruno Barada, Laura Dutèche-Pérez, Mathieu Bellini, Anouk Delfino et Madeleine Martineux. À la réalisation, Anna Holweck, à la technique, Clément Daté. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute en podcast sur le site franceculture.fr.